Merci Aline pour cet éclairage et ce complément finalement, parce qu'on a parlé de différents territoires, mais pas forcément de ceux-là où les ateliers sont en effet très implantés et trouvent généralement un terreau favorable à beaucoup d'activités connexes, en effet, à la simple réparation des vélos. Je me tourne maintenant vers Maëlle et Eric qui ont reçu des centaines de petits papiers, n'est-ce pas, et qui vont nous les résumer en quelques mots.
Oui, du coup, on a reçu pas mal de questions. Je vais essayer de résumer tout ça en m'excusant d'avance pour ceux qu'on aurait écartés ou pour les approximations qu'on va faire. On a écarté les questions trop spécifiques et on invitera les gens à venir les poser au buffet et par ailleurs aux intervenants. Alors, j'ai classé tout ça en 5 points. La première, c'est la question de l'espace, finalement de l'aménagement urbain, avec des quartiers comme la Part-Dieu qui vont concentrer beaucoup de travailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour limiter la mobilité ou au contraire la développer. Et la développer, ça me fait enchaîner sur la question des territoires périphériques, périurbains, voire ruraux, où le développement du vélo n'est pas automatiquement faisable ou facile. Et comment est-ce qu'on les intègre dans une politique de mobilité, ou en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour travailler ces questions sur des territoires très variés? Et notamment leur accès via des pistes cyclables comme la Via Rhôna qui sont intéressantes, qui sont tournées vers le tourisme et qui peuvent être aussi des portes d'ouverture vers d'autres espaces que les espaces centraux. Cette question de l'espace, elle me fait enchaîner sur la question du social et de l'accès, donc qui a été déjà évoquée. Est-ce que le vélo peut rendre la ville plus égalitaire ou en tout cas réduire les égalités? Il y a l'élection de l'accès financier, mais tout simplement du droit à la ville. La question de l'accès, la question sociale, qui me fait embrayer plus largement sur la question des politiques de mobilité, enfin les politiques de déplacement de manière plus large, mais dans leur efficacité, j'ai eu des questions sur le rapport entre les dépenses produites dans les différents modes de déplacement et leur efficience derrière. Quelles sont les dépenses mises dans le vélo et leur rapport financière. Je sais pas si le micro marche bien en fait.
Si, 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 si.
Je suis à peu près. Ça marche mieux comme ça.
C'est super technique comme question. Hein. Je pense que les gens connaissent mieux les réponses que nous. Hein.
Je vous livre la parole du public. Mais du coup aussi de la place des autres modes de mobilité. Alors il y a eu le vélo à assistance électrique qui reste dans le vélo, mais aussi des trottinettes, des rollers. Quelle est leur place dans les politiques publiques? Est-ce qu'il leur en faut une? Et quelle est leur place dans l'espace public? Sur le trottoir ou sur la voirie? Quelle est la place du vélo dans le transport de marchandises? Et notamment, on a soulevé qu'il était impossible d'accéder aux déchetteries en vélo. Et du coup, est-ce que le...
J'ai pas le règlement sur moi.
Mais... Toujours est-il que quelqu'un a eu l'accès. Enfin, la dernière série de questions, elle porte sur la parole des cyclistes dans les politiques publiques. Comment donner un vrai poids aussi à la parole des cyclistes dans l'aménagement urbain quand on sait qu'ils ne représentent que 3% de la part modale? Et du coup, par rapport au lobby automobile ou de la publicité qui vont mobiliser peut-être plus d'éléments de plus d'éléments, plus de paroles. Et du coup, le rapport aux associations cyclistes, quel est leur rôle et quelle est leur indépendance par rapport au soutien des collectivités pour porter un discours. Pas mal de questions déjà.
Pas mal de questions, en tout cas beaucoup de sujets qui sont ouverts. Je ne sais pas si j'ai l'impression que tous les intervenants et intervenantes autour de la table sont en train de baisser la tête pour ne pas croiser mon regard et que je leur donne la parole. J'ai peut-être moi envie de proposer à Gilles Vesco de réagir sur cette question de la parole des cyclistes sur les politiques publiques, parce que les cyclistes, c'est une tribu en soi, hein. Ils sont très présents dans le, dans, dans le, dans les échanges, dans la discussion, notamment dans la concertation, etc., avec des objectifs assez bien définis et compagnie. Je pense qu'à Lyon, ils ne sont pas toujours bien entendus quand on voit la manière dont l'espace public se structure, etc. Et puis, peut-être pour faire le relais de ce que disait Aline, il y a peut-être aussi des cyclistes sur d'autres territoires que ceux du centre de l'agglomération qui finalement n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer autant et ne se retrouvent peut-être pas aussi dans les politiques publiques et peut-être encore moins parce qu'ils sont peu présents. C'est un sujet en soi par rapport au dialogue, puisqu'il y a beaucoup de gens que vous connaissez dans la salle, etc. Et en même temps, de relayer cette attente des cyclistes, c'est-à-dire, pour beaucoup, il y a une interpellation qui se fait de plus en plus parce qu'il y a cette impression que les choses n'avancent pas au rythme que la transition devrait avoir.
Merci. Oui, alors... Mauvaise pioche parce qu'il y avait 5 ou 6 questions et je suis tombé sur la plus sensible. Mais en fait, elle recoupe toutes les autres puisque la ville plus égalitaire, c'est aussi la parole plus égalitaire. L'accès à la ville en vélo, c'est évidemment le poids sur l'espace public. Vous savez que l'espace public, c'est un rapport de force entre différents modes dont la collectivité doit... pour lesquels la collectivité doit instaurer le respect mutuel renforcé entre eux. Et puis, il y a cette question des dépenses mises sur le vélo qui pèsent au trébuchet. Enfin, je veux dire, ici, on passe notre temps, en fait, à gérer un budget qui est de 3,5 milliards d'euros, ligne à ligne, euro par euro presque. Hein. On sous-pèse, on évalue, on décide. Et en fait, c'est un petit peu le rôle de cette assemblée dont vous occupez les sièges aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un bon indicateur du poids du cycliste, de voir, puisque le vote du budget, c'est le geste politique par excellence, c'est une fois par an, et c'est là où on dit ça pèse tant, ça vaut tant, ça compte pour tant. Et comme vous le savez, moins il y a d'argent, plus on doit faire de la politique, parce que quand il y a de l'argent, on saupoudre un peu partout. Et tout le monde est content. Quand il n'y en a plus, là, le Grand Lyon perd 1 milliard, presque 1,5 milliard d'euros sur ce mandat en dotation globale de fonctionnement de l'État. À un moment donné, il faut que ça se répartisse un peu sur toutes les dépenses d'investissement, de fonctionnement. Et là, on fait de la politique puisqu'il faut prioriser. Et évidemment, ça percute directement des politiques telles que les pistes et les bandes cyclables ou les services vélos ou l'aide aux associations, puisque c'est en gros là, j'ai cité le trépied un petit peu, associations, services vélo, bon, vélo ou stationnement sécurisé, et puis réseau. Alors sur la parole des cyclistes, je voudrais d'abord dire que, à nos yeux au Grand Lyon, c'est une vraie question, mais je ne voudrais pas vraiment passer trop de temps, je vais me faire disputer, le vélo n'est pas à 2,7% sur Lyon-Villeurbanne et à 2% sur le Grand Lyon. Nous estimons que c'est bien au-delà en termes de part modale. Moi, je le dis, j'ai un vrai sujet avec la méthodologie, fut-elle CEREMA, mais largement importée des années 60 quand même, du temps où il y avait le combat TC-voiture, mais il y a plus, c'est plus le face-à-face TC-voiture. Donc je pense que sur les enquêtes ménages, que malheureusement on fait tous les 10 ans, qui malheureusement coûtent des millions d'euros, et qui malheureusement on traite comme un boulet de PowerPoint en PowerPoint pendant 10 ans, puisque ce sont les chiffres qui sont coulés dans le bronze, et que déjà de Stockholm, on me dit « Ouh là là, Lyon, 2%, ouh là là, very bad ». Donc là, je dis « Non, 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 au secours, on a passé 15 ans à bosser un peu, on a augmenté dans les 10 dernières années de 330 le trafic vélo, on a augmenté par 3 aussi, comme par hasard, le réseau cyclable, on a initialisé une invention qui a été copiée dans le monde entier comme Vélov. On n'est pas à 2,7% sur le... Alors on dit 3 parce que c'est l'arrondi, mais même le 2,7, il est issu de beaucoup, beaucoup d'arrondis, puisque ce chiffre est produit par 18 000 questionnaires et sur des tas de lieux et de professions, etc. Donc, ce n'est pas 3%. On estime que c'est autour de 4-5% sur le Grand Lyon. Et en termes de trajet, alors le problème, c'est qu'on compte en déplacement ou en trajet, en termes de trajet, on tangente les 7-8% sur Lyon-Villeurbanne. Donc ça déjà c'est un vrai poids.
Et sur les budgets déplacement.
Et alors ensuite sur le poids, on passe de 90 millions d'euros budget Grand Lyon sur 2008-2014 à 160 millions d'euros sur 2014-2020. Donc il y a un véritable effort. Alors évidemment, je triche un peu parce qu'on y rajoute le plan marchable, entre guillemets, parce qu'il faut communiquer, et dedans. Mais ça compte. Ça compte parce qu'évidemment, les abaissements de trottoirs, les élargissements et abaissements de trottoirs, ça compte pour l'accessibilité. On parlait de l'accès de la ville. C'est aussi la ville égalitaire. Si on accède plus facilement à la ville, à pied, en vélo, fût-ce en trottinette, en solo wheel ou en hoverboard, etc., c'est mieux qu'en 4x4 noir, Range Rover, Evoque, diesel, etc., qui coûte très cher. Et donc l'accès à la ville, c'est aussi le rééquilibrage de l'espace public, que j'avais oublié de citer à côté des plateformes d'électromobilité, de l'infomobilité. Il y a ce rééquilibrage de l'espace public où, en fait, on prend la voiture pour donner aux nouvelles mobilités au mode doux, et qui se traduit... Enfin, c'est élargissement et abaissement de trottoirs, c'est 10 millions d'euros par an. C'est pas neutre. Et comme par hasard, ça nous amène la trottinette. Ça, c'est un truc, vous voyez, comme quoi on peut avoir... On parle d'innovation disruptive. Et l'autre jour, je recevais un Américain, et je lui dis, rapport... d'étonnement, je lui dis, qu'est-ce qui t'a étonné à Lyon? Je m'attendais à ce qu'il nous décline toute notre belle politique publique de rééquilibrage d'espace public, pont Raymond Barre, tramway, piéton-vélo, tube de la Croix-Rousse, piéton-vélo, et transport en commun bientôt électrique, et Garibaldi, et les berges du Rhône, et de Saône, et etc., etc. Il me dit, oh, il y a un truc incroyable chez vous, ça n'existe pas aux États-Unis, c'est que les gens ils vont au boulot en trottinette. Et alors là, je suis tombé un petit peu de ma chaise. Maintenant, elle va devenir électrique. Alors évidemment, pour reboucler sur la question, qu'est-ce qu'on va faire de la trottinette électrique? Donc j'espère qu'à Paris, il y a des gens qui travaillent sur le prochain code de la rue pour qu'ils nous disent, ben ouais, là, le problème, c'est qu'il y a un différentiel de vitesse. Et que, alors théoriquement, au-delà de 6 km/h, je vous préviens, tout ça doit virer des trottoirs, c'est 6 km/h. Mais si les gens sont sur un solo wheel, une trottinette électrique ou un hoverboard ou un roller, c'est évidemment pour aller au-delà de 6 km/h. Sinon, ils ne seraient pas dessus, et comme ça va bien sur les trottoirs, ça pose un problème de cohabitation et de sécurité. Donc, tout ça est un tout, comme vous le voyez, hein, c'est tout se tient. On pourrait tirer la plotte entre rééquilibrage, l'espace public, ville égalitaire, parole égalitaire, dépenses publiques, innovation disruptive, trottinette, roller. C'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est les nouveaux modes, hein. Donc c'est le piéton augmenté. Hein. Finalement, c'est des vélocipèdes aussi, puisque vélocipède, étymologiquement, ça veut dire piéton vélos. Donc c'est un piéton qui va plus vite. Donc il fait comme un piéton, il va tout droit du point A au point B, donc il faut essayer de le remettre dans les clous, donc code de la rue, double sens cyclable, pour qu'il ne monte pas sur les trottoirs, etc. Mais ça reste un piéton vélos. Donc qu'est-ce qu'on fait des piétons vélos? Et c'est une vraie question qu'il va falloir... Donc moi, je plaide pour que déjà... Il y a peut-être des gens de la police municipale qui soient sur ce type d'engin pour qu'ils commencent à accompagner, à expliquer. Alors déjà, sur des vélos, ça serait bien, puisque malheureusement, on a du mal à faire monter les brigades cyclables, puisque être tous les jours dehors, à la pluie, au vent et au froid, c'est pas évident. Et voilà, voilà un petit peu ce que je voulais dire. La parole des cyclistes, nous, on a un groupe de contact tous les deux mois. Entre-temps, c'est-à-dire...
Non, je ne pensais pas qu'il faisait un si mauvais temps à Lyon, en fait. Allez,
on les rend... voilà. Mais effectivement, on essaie d'avoir du beau temps.
Et alors, avant
mais vous savez qu'on n'est pas responsable du temps. En 2002, quand on a fait... non, mais les politiques, si on se vante du soleil, on nous met la pluie sur le dos. Hein, donc il faut faire attention. Je dis ça parce que en 2002, quand on a fait le sondage Ipsos, on avait l'argent que pour une question. Donc on a dit, pourquoi vous ne faites pas du vélo en ville? 5000 euros la question, donc... Ils nous ont dit trois choses. Peur du vol, donc là, c'est sécurité du stationnement des vélos. Peur de l'accident, donc là, c'est piste et bande. Et le climat, et le temps. On a dit le temps. Alors, on y travaille au climat hein, grâce au vélo, mais indirectement. Et du coup, on s'est dit, on va bosser sur les services vélo et sur le réseau.
Et sur,
voilà, donc coup, là, sur la parole, je finis sur la question initiale.
Ouais. Et avec puis, une question, parce ça, que je l'affine dans ce cas. C'est en effet des réunions régulières avec
voilà,
les associations.
Donc tous les deux mois, on a les associations.
Mais à quel point l'information va au-delà dans la alors, hiérarchie ça, du Grand Lyon?
Ça, on essaye d'avoir des interlocuteurs représentatifs. Christophe Famille, qui est là, s'arrache tous les cheveux pour repeigner tous les deux mois la liste, et ils sont beaux et longs et lisses. Tous les deux mois, on refait, on revoit, on recale la liste pour être sûr qu'on n'oublie personne. Les nouvelles associations qui sont créées dans telle ou telle ville, Givors, Vénissieux, enfin, tous les deux mois, c'est un monde qui bouge et ça, c'est bien. Et entre-temps, il y a une réunion technique où on essaye de bosser. Alors, il n'y a pas les élus, c'est donc alternativement, donc ça veut dire qu'on se voit tous les mois quand même, avec les services. Et là, on bosse beaucoup plus en amont sur les projets. Et là, on a l'expertise technique des associations qui jouent à plein, puisqu'ils y voient arriver les projets en amont et ils peuvent mettre leurs pattes et donner vraiment des conseils et travailler de concert avec les services. Voilà un petit peu ce qu'on a essayé de mettre en place. Je crois beaucoup au rythme on a mis les piétons et les vélos ensemble. Donc on est peut-être la seule ville où ça se passe bien entre les piétons et les vélos. Ils tirent la corde du même côté. Parfois, c'est nous les victimes parce que du coup, ils sont plus forts contre la collectivité. Mais on s'en félicite parce que c'est la même logique. Et de plus en plus, on va voter le PAMA, le plan d'action mobilité active au mois de mai. Et on voit bien que c'est une seule et même logique de mode alternatif à la voiture individuelle.